Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite sur RTL, un nom, un ordre, une légende, les Templiers dans la curiosité. Bonjour Xavier Larry.
Bonjour.
Soyez bienvenue.
Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Jean Moulin de Lyon. On pose le décor pour commencer. Les Templiers, c'est à quelle époque déjà ?
Alors c'est au cœur du Moyen-Âge, c'est entre le début du XIIe et le début du XIVe siècle.
Alors qui sont les Templiers ? Qui avait le droit de porter ce titre ?
Alors les Templiers, ce sont des frères qui appartiennent donc à une fraternité, à un ordre religieux qui a une particularité, c'est d'être un ordre à la fois militaire et ecclésiastique.
Donc c'est des moines chevaliers en quelque sorte.
Oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors effectivement, ils appartiennent aux deux catégories. En fait, ce sont des chevaliers, mais qui sont aussi soumis à une règle d'essence monastique.
Comment les Templiers sont-ils devenus un ordre aussi riche et puissant ? On révèle les secrets de leur ascension, c'est dans un instant sur RTL.
La Terre Sainte, il y a plus de 900 ans, RTL. À cette époque de croisade, de très nombreux pèlerins se retrouvaient sur les chemins de Jérusalem. Mais en ces temps de guerre religieuse, les routes n'étaient pas sûres. Et nombreux sont ceux qui perdaient la vie attaqués par des brigands de tous bords.
Thomas Hugues.
Le but primitif, c'était donc de sauvegarder les chemins de pèlerinage.
Sidonie Bonnec.
Les Templiers devinrent incontournables dans les domaines économiques et militaires. L'ordre du Temple se développa à travers toute l'Europe chrétienne. La curiosité est un vilain défaut.
L'ordre des Templiers, c'est une histoire qui nous fascine toujours. 7 siècles après leur disparition brutale, on fait la part entre fantasme et réalité avec notre invité, l'historien Xavier Larry. L'ordre du Temple qui est donc fondé au début du XIIe siècle, par qui ? Qui l'a créé ?
Alors le fondateur, c'est un chevalier originaire de Champagne qui s'appelle Hugues de Pin et qui était parti en Terre Sainte pour participer à la défense du royaume de Jérusalem.
C'est un chevalier de moyenne importance, ça veut dire quoi et pourquoi c'est un atout ?
Alors c'est un atout parce que c'est pas un grand seigneur, il n'est pas comte ou duc et encore moins roi, et il n'est pas non plus un tout petit chevalier, c'est-à-dire qu'il touchait à la fois aux tout petits chevaliers qui pouvaient séduire par son exemple, et puis en même temps il avait accès aux grands seigneurs, aux comtes, aux ducs, qui pouvaient ainsi intéresser à son entreprise.
Quel est ce temple qui leur donne leur nom, l'ordre des Templiers, ça vient d'où ?
Alors l'ordre du Temple tire son nom de l'esplanade du Temple où se trouvait dans l'Antiquité le Temple des Juifs, le Temple de Jérusalem qui a été détruit en 70 par les Romains. Mais il restait l'esplanade du Temple sur laquelle les musulmans avaient construit deux mosquées, la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher.
Être moine guerrier au Moyen-Âge, c'est une nouveauté. Est-ce que c'est une originalité qui va susciter des critiques ?
Ah oui, c'était quelque chose qui était tout à fait inhabituel et un des moines qui a critiqué la création de l'ordre l'a appelé un nouveau monstre parce que les religieux ne pouvaient pas verser le sang. Il était interdit à ceux qui appartenaient au clergé de verser le sang. Or, c'était la mission justement des Templiers.
C'est vrai qu'on peut y trouver une contradiction ou un paradoxe parce que leur rôle, si ça s'appelle le Temple et s'il y a ce lien avec Jérusalem, c'est pas un hasard. On est dans les croisades et il s'agit de protéger ceux qui vont s'installer là-bas. C'est un peu ça l'idée ?
Voilà, tout à fait. C'était d'avoir une sorte d'armée permanente qui permette de défendre le royaume de Jérusalem contre les musulmans qui essayaient de reprendre justement Jérusalem. Et pour ça, un ordre religieux, c'était la meilleure des choses puisque c'est des combattants qui étaient entièrement dévoués à la défense du royaume.
Donc, ils ont le droit de tuer au nom de Dieu. C'est ça le paradoxe.
Voilà, c'est ça, exactement. Et ça a été compliqué parce que Saint Bernard, qui est un des parrains de l'ordre du Temple, va créer l'idée que au fond, quand ils commettent un meurtre, quand ils tuent des ennemis, ils ne tuent pas des hommes, ils ne font pas des homicides, mais ils font un malicide, c'est-à-dire qu'ils tuent le mal.
Comment les Templiers, ces moines guerriers, deviennent-ils incontournables, des stars populaires ?
Alors ils deviennent effectivement très populaires.
On aime bien
parce
le flyer des mots d'aujourd'hui pour parler du passé.
L'anachronisme, c'est pratique.
Voilà, c'est vrai, vous avez raison. Mais ils viennent effectivement très populaires de façon très étonnante parce que en quelques mois, en quelques années, l'ordre du Temple va être connu dans tout l'Occident et il y aura des commanderies aussi bien en France, c'est là où il y en aura le plus, mais également dans toute l'Europe et même en Bohême par exemple.
Mais ils sont nombreux. On sait combien ça se chiffre à combien les Templiers au Moyen Âge entre le XIIe et XIVe siècle.
Alors quand ils sont à leur apogée, on pense qu'il y a 1000 frères qui sont chevaliers. Et puis il y a tous ceux qui sont ceux qu'on appelle les sergents et les chapelains, donc il faut peut-être tripler ou quadrupler ce chiffre.
Mais ils ont reçu beaucoup de soutien, parce qu'on parle d'imagerie populaire, mais il y a aussi des soutiens de puissance, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de grands seigneurs qui ont donné leur appui à l'ordre naissant. Et puis également l'Église, le pape, les évêques ont donné de l'argent, donné des terres, des domaines.
Comment ça marche au sein de l'ordre du Temple ? Est-ce que c'est très hiérarchisé ? Qui est le boss ? Qui sont les employés ?
Alors le boss, c'est celui qu'on appelle le maître du Temple, et puis celui qu'on finit par appeler d'ailleurs le grand maître du Temple, en fait. Il y a une autorité sinon absolue, mais en tout cas très grande sur l'ordre. Mais il est entouré de toute une série de dignitaires, en fait, qui l'assistent dans le gouvernement de l'ordre. Il faut bien voir que c'est un ordre international, en fait, à une époque où la communication est difficile, évidemment.
Donc il est choisi par ses pairs. Comment ça marche? Comment on devient grand maître, quoi?
Oui, le grand maître est élu, en fait. Il y a toute une procédure d'élection qui est très compliquée, qui est expliquée dans le détail par la règle du temple. Et c'est donc une procédure où les meilleurs au sein de l'ordre, avec les dignitaires, élisent celui qu'ils jugent être le plus apte à remplir ses fonctions de grand maître.
Il se situe où, ce grand maître? On est au Moyen-Âge, 12e, 13e, 14e siècle. Il y a des papes, il y a des rois. Il se situe où dans la hiérarchie des puissants, le grand maître de l'ordre du temple?
Alors, son titre officiel, c'est l'humble maître de la pauvre chevalerie du temple. Donc, il y a une apparence d'humilité.
Il essaye vraiment de disparaître, là.
Voilà, c'est l'humilité, la pauvreté, mais en même temps, vu l'importance de l'ordre du temple dans la défense de Jérusalem, dans la défense des États croisés, il est en fait l'équivalent d'un prince.
Ils sont nombreux à s'être succédé à ce poste de grand maître du temple en deux siècles?
Ah oui, il y en a au moins une vingtaine, et puis beaucoup sont morts au combat, en fait. Donc ils s'exposaient eux-mêmes, l'un des derniers grands maîtres est mort en 1291, Guillaume de Beaujeu.
Oui, ils travaillaient aussi, quoi.
Oui, ouais. c'était vraiment des combattants eux-mêmes.
L'obéissance, j'ai lu ça dans votre livre Les Templiers, publié chez First Edition, que l'obéissance, c'est le maître mot de cet ordre. Pourquoi ça veut dire quoi?
Alors c'est très important, l'obéissance, dans tous les ordres monastiques, puisque normalement même les moines bénédictins doivent abolir leur volonté. Mais c'est particulièrement important dans un ordre militaire, puisqu'il s'agit de manœuvrer ensemble sur le champ de bataille. Et donc l'obéissance est vraiment la vertu la plus importante.
Alors, ce livre, vous le publiez chez First. On y découvre que les Templiers vont devenir très puissants, mais on sait aussi qu'ils ont disparu. Comment ont-ils disparu? C'est ce qu'on va découvrir juste après la pause dans La Curiosité sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Avec l'historien Xavier Ellery, on dévoile les secrets des Templiers et on calme aussi les fantasmes qu'ils suscitent toujours, notamment à propos de leur fameux trésor. On parlait de l'organisation il y a un instant, très stricte et hiérarchisée des Templiers. Comment sont recrutés les petits nouveaux?
Alors, ils sont recrutés avec beaucoup de soin, puisque l'ordre, comme les vœux sont perpétuels, quand on entre dans l'ordre, on ne peut pas en sortir sans l'autorisation expresse du pape. Il faut donc tester beaucoup la vocation, en fait. Et donc, on fait très attention à bien être sûr que les gens sont prêts, les jeunes gens sont prêts à s'engager pour la vie.
La vocation religieuse?
Alors, la vocation religieuse, la vocation de combattant. En fait. Oui, il n'est pas possible de s'en sortir, de sortir de l'ordre, en fait. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça.
Avec un rituel très précis pour devenir templier, ça se passe comment?
Oui, alors il y a une cérémonie qui est très solennelle et qui, en fait, culmine avec la remise du manteau blanc et avec un baiser qui doit être échangé entre le nouveau frère et tous les frères qui sont présents, avec souvent un dignitaire qui est là pour présider la cérémonie. Ils s'embrassent sur la bouche. Alors c'est assez fréquent au Moyen-Âge et c'est pas de nature sexuelle, mais c'est au contraire pour finalement l'échange des souffles, en fait, et pour montrer la solidarité fondamentale entre les Templiers, le nouveau et ceux qui sont déjà présents dans l'ordre depuis longtemps.
Le grand manteau blanc avec la croix rouge, ce symbole-là, il a toujours été présent?
Alors le manteau blanc, oui, pratiquement, et la croix rouge est arrivée très tôt, en fait. La croix rouge, c'est d'abord la croix des croisés, en fait. Et donc les Templiers sont des croisés perpétuels. Donc ils ont ce privilège, les seuls dans la chrétienté, de porter en permanence ce manteau blanc frappé de la croix rouge.
Si les Templiers sont restés dans l'histoire, c'est aussi parce qu'ils ont disparu d'une manière très violente. Xavier Ellery, les Templiers vont disparaître deux siècles après leur création, donc au XIVe siècle. Un roi va les attaquer. Qui est-il et pourquoi il en veut?
Alors ce roi, c'est Philippe le Bel, qui est roi de France entre 1285 et 1314. Et c'est assez mystérieux de savoir pourquoi Philippe le Bel s'en est pris à l'ordre du Temple, qui était un ordre essentiellement français. La langue de communication, c'était le français. L'essentiel du patrimoine de l'ordre était dans le royaume de France, et les Templiers possédaient même à Paris un quartier, le quartier du Temple, où il y avait une tour qui servait de trésor au roi de France. Donc c'est un petit peu mystérieux. Mais Philippe le Bel a voulu mettre en avant vraiment son autorité à l'intérieur du royaume.
Parce que c'était des concurrents à son royaume, en quelque sorte, les Templiers.
Il a, Il, il a dû le penser comme ça.
À son autorité.
Oui, il voulait éliminer toutes les autorités concurrentes. Donc il s'en est pris comme ça au roi d'Angleterre, il s'en est pris au pape et il s'en est pris aussi à l'ordre du Temple, qui était une structure internationale en fait, qui ne dépendait pas entièrement de lui.
Ça veut dire qu'il y avait les Templiers un peu partout en Europe ou un peu partout dans le monde ?
Alors en Europe effectivement, et puis également en Terre Sainte, en Arménie, partout il fallait défendre la foi contre les musulmans.
Ça veut dire que sous Philippe le Bel, il va y avoir une sorte de chasse aux Templiers. Comment on va les arrêter ?
Alors c'est extraordinaire parce que c'est pour la première fois, il y a eu une sorte de coup de filet le vendredi 13 octobre 1307.
Qui avait un vendredi 13 ?
Vendredi 13. Alors souvent on dit d'ailleurs que c'est de là que vient le signe de cette malédiction qui frappe le vendredi 13. Et donc tous les Templiers du Royaume de France ont été arrêtés le même jour. Et l'arrestation avait été prévue et tenue secrète pendant un mois. Mais c'était toute une logistique, puisqu'il fallait savoir combien de personnes il fallait arrêter, etc. Donc ça a été vraiment un coup de filet qui n'a pas d'équivalent à l'histoire du Moyen-Âge.
Est-ce qu'ils sont jugés, ces Templiers ? Est-ce qu'il y a un acte d'accusation ou ils sont simplement exécutés ?
Ah non, il y a un acte d'accusation qui est très, très détaillé, comme on fait souvent au Moyen-Âge. Donc on accumule les accusations, donc l'hérésie, c'est-à-dire une interprétation déviante de la foi, mais aussi des pratiques, notamment homosexuelles. En fait, on leur reproche, en partant, de se baiser sur la bouche. On dit que lors de la cérémonie de réception, ils auraient été non seulement autorisés, mais encouragés à avoir des pratiques homosexuelles, c'est-à-dire à avoir une sexualité entre eux. Or, c'est un ordre religieux, donc ce sont des religieux qui ne sont astreints à la chasteté, qui ne doivent pas avoir de relations sexuelles avec des femmes, et a fortiori, bien sûr, avec des hommes.
Est-ce qu'ils étaient quand même moins populaires après deux siècles de puissance, de pouvoir, les Templiers ?
Alors, ils étaient...
Qu'est-ce qu'on leur reprochait ?
Oui, je pense que dans l'opinion, si on veut, ils étaient encore assez populaires. Évidemment, on oublie souvent qu'au Moyen-Âge, il y a une assez forte tradition d'anticléricalisme, mais qui s'adresse aussi bien aux ordres militaires qu'aux autres ordres religieux, notamment les ordres mendiants, franciscains et dominicains.
Combien de Templiers seront exécutés ?
Alors, ils vont subir une très longue procédure, puisque le pape va essayer de reprendre la main. En fait, c'est un ordre religieux qui ne dépend que du pape. Et donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que beaucoup ont avoué, mais ils ont avoué sous la torture. En fait, beaucoup ont été torturés. Certains sont morts pendant qu'ils étaient torturés.
Et les autres ?
Et les autres seront soit libérés, finalement, soit exécutés sur le bûcher. C'est le cas du grand maître Jacques de Molay.
La curiosité continue sur RTL. Et tout de suite, on cherche le trésor des Templiers.
RTL. Quel est donc ce secret que les Templiers voulaient dissimuler à tout prix aux yeux du monde ?
RTL. Cette grande forêt, en réalité, pour beaucoup, elle ne va servir qu'à abriter un secret que veulent cacher absolument les Templiers.
La curiosité est un vilain défaut.
Certains murmurent qu'il s'agirait d'un des objets les plus recherchés de notre histoire. Un trésor convoité par tous. La fabuleuse Arche d'Alliance.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Deux siècles d'histoire pour les Templiers et beaucoup de légendes, beaucoup de fantasmes. Nous sommes toujours avec l'historien Xavier Hélary, qui est professeur d'histoire médiévale à l'université Jean Moulin de Lyon. Et donc tout de suite, on va parler de ce trésor, parce que c'est vrai que ça fait partie des légendes et des fantasmes. Avant de savoir s'il y en a un ou pas, à quel point l'ordre du Temple, les Templiers, ont-ils été riches ?
Alors ils étaient très riches, effectivement. Ils étaient très riches parce qu'ils avaient énormément de patrimoine. Ils avaient donc ce qu'on appelle les commanderies, en fait, qui étaient des domaines agricoles. Ils avaient aussi des domaines dans les villes. Donc, on a parlé tout à l'heure du quartier du Temple.
Ça veut dire quoi, posséder un quartier à Paris
C'est-à-dire
pour
qu'ils
les Templiers
en avaient. C'était en dehors de la juridiction du roi. Mmh. Ils avaient la juridiction. C'est-à-dire, ils exerçaient la justice dans ce quartier-là. Ils touchaient des taxes, etc. Donc, ils possédaient vraiment ce quartier-là. Donc, ils excitaient beaucoup la générosité des fidèles parce que c'était un moyen de contribuer à la défense de l'ordre.
Et des fidèles parfois très riches et très puissants.
Voilà, qui dans leur testament prévoyaient des dons. Si eux-mêmes n'avaient pas pu se rendre en Terre Sainte pour la croisade, eh bien, ils faisaient un don à l'ordre du Temple qui combattait pour eux, en quelque sorte.
Par exemple, le roi d'Aragon, qu'est-ce qu'il leur donne ?
Alors ça, c'est fascinant, parce que dès 1130, le roi d'Aragon, donc au tout début de l'histoire de l'ordre, le roi d'Aragon leur donne son royaume. Et donc ça, c'est vraiment mystérieux. D'ailleurs, ils ne pourront pas vraiment l'accepter parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour avoir un royaume, mais ça montre bien l'enthousiasme que la création de l'ordre a suscité.
Et alors, après la dissolution de l'ordre des Templiers, la disparition d'un grand nombre d'entre eux, que deviennent ces biens, en fait, et tout cet argent ?
Alors, c'est bien, il est possible que Philippe le Bel ait voulu les récupérer, mais le pape a tranché et les a donnés à l'ordre concurrent de l'ordre du Temple, qui est l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, qui est aujourd'hui l'ordre de Malte.
Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trésor. Enfin, si, mais ce trésor, c'est l'ordre de Malte qui le possède.
Alors, il y a deux choses. Il y avait un trésor dans la tour du temple à Paris, mais ça, c'est sûrement Philippe le Bel qui l'a récupéré. Et puis, les Templiers servaient de banque également. Donc, il y avait des dépôts, et les dépôts appartenaient à ceux qui les avaient faits.
Ils ont récupéré leurs dépôts.
Mais pourquoi, alors, il y a eu ce fantasme, cette légende du trésor des Templiers qu'on a continué de chercher un peu partout?
Alors, il y a une toute petite mention dans le procès du temple qu'on a conservé qui dit que, voilà, des chariots serait parti avant la veille de l'arrestation, en fait. Et donc, on a pu broder à partir de ça. C'est vrai que c'est une idée assez fantastique, cet ordre qui a disparu. Et donc, on a l'impression qu'il y a sûrement quelque chose de secret derrière tout ça.
Aussi associé aux Templiers, une idée de malédiction. Pourquoi est-ce qu'on parle de malédiction? Ils ont été maudits? Ils nous ont maudits?
Alors, pas nous, mais ceux qui les avaient condamnés, c'est-à-dire essentiellement le roi de France, Philippe le Bel, et le pape. Et de fait, le grand maître Jacques de Molay est brûlé donc en mars 1314. Le pape meurt un mois plus tard et Philippe le Bel meurt six mois plus tard. Et donc, la coïncidence des dates a fait que, en définitive, on a considéré que Philippe le Bel et le pape étaient morts à cause du grand maître, à cause du crime qu'ils avaient commis en mettant fin à l'ordre du temple.
Mais est-ce que le grand maître a effectivement, sur le bûcher, prononcer cet anathème, dit vous serez maudit jusqu'à la 13e génération?
Alors il ne l'a pas fait comme Maurice Druon dans Les Rois Maudits, en fait il a peut-être dit quelque chose, en tout cas des témoignages assez proches de 1314 le laissent penser.
Un dernier mot, le temps file, mais il y a encore beaucoup de fantasmes sur les héritiers des Templiers.
Alors,
les francs-maçons? Est-ce que les francs-maçons seraient les héritiers des Templiers?
Oui, alors quand la franc-maçonnerie est apparue au 17e, 18e siècle, certaines branches de la franc-maçonnerie se sont réclamés effectivement de l'ordre du temple, et avec l'idée que c'était une société secrète en fait, et c'est cette idée qui prospère encore aujourd'hui.
Ça tient encore aujourd'hui, ça?
Ah oui, il y a beaucoup d'idées l'ordre du temple aurait survécu de façon souterraine en fait, et notamment à travers la franc-maçonnerie.
Merci beaucoup Xavier Larry, votre livre Les Templiers, leur faux trésor, leur vraie puissance est donc publié chez First. À bientôt.
À bientôt.
Merci.